leur chant.
Demandez si je suis philosophe, alors je vous répondrai que si je veux être philosophe, il faut bien que je prenne conscience du fait que je ne suis pas philosophe. On n'est pas philosophe comme ça. La philosophie, c'est une activité qui est diverse, qui est polymorphe, c'est une activité qui, à un moment donné, avait son style très particulier, avait ses objets très particuliers. Je crois maintenant que le discours philosophique a perdu ce style, qu'il a perdu ce domaine particulier, le monde d'objets qui lui était familier, qui était les siens, et que maintenant, si vous voulez, la philosophie se perd dans sa spécificité et elle réapparaîtra un jour. Elle est peut-être en train de réapparaître dans un langage que nous ne soupçonnons pas encore. Au fond, le propre de la philosophie, c'est qu'elle ne sait jamais au juste ce qui est le jour et ce qui est la nuit.
Tout au long de cette semaine, nous avons essayé de comprendre qui était Michel Foucault et surtout ce qu'il représente aujourd'hui. Vous, Didier Ribon, vous avez été le premier à écrire une biographie de Michel Foucault. C'était en 1988. Elle a été rééditée donc en 2011 avec tous les nouveaux textes qui ne cessent d'être publiés sur Michel Foucault. Y a-t-il plusieurs Michel Foucault selon vous ? Et est-ce qu'il y a une métamorphose de son statut d'intellectuel au fil du temps ?
Oui, je dirais d'abord qu'il y avait déjà plusieurs Michel Foucault de son vivant, puisque le Foucault des années 60, celui qui publie Les mots et les choses ou L'archéologie du savoir, n'est pas celui qui allait par la suite écrire, publier Surveiller et punir, son livre sur la prison, ou La volonté de savoir, où là c'est un Foucault plus directement politique, dont les livres se veulent des interventions à la fois théoriques et politiques, ce qui n'était pas tout à fait le cas de Les mots et les choses, qui étaient plutôt des livres de réflexion d'épistémologie, d'histoire des sciences. Donc il y avait déjà plusieurs Foucault, on pourrait faire comme ça une histoire de Foucault de son vivant, mais c'est sûr que après sa mort, Foucault a changé. Le Foucault dont on peut parler aujourd'hui est tout à fait différent du Foucault que les lecteurs et les gens qui s'intéressaient à la vie intellectuelle à l'époque où il vivait, c'est-à-dire il est mort en 1984. Le Foucault d'aujourd'hui est tout à fait différent, tout simplement parce que il y a un très grand nombre de textes qui sont parus de manière posthume, et notamment ses cours au Collège de France, qui est un corpus considérable de travail, de réflexion. C'est très très impressionnant. C'est plus ou moins, pour certains, il y a des cours qui sont passionnants, pour d'autres, c'est d'autres cours qui attirent l'attention. Mais par exemple, on a pu voir que le cours de 1979, je crois, sur le néolibéralisme, où Foucault s'explique avec la théorie néolibérale, est un des textes de Foucault aujourd'hui les plus discutés, commentés dans le monde entier, âprement d'ailleurs, mais que ce texte-là, évidemment, Foucault l'a prononcé quand il était vivant, bien sûr c'est un cours, mais ça n'avait pas été publié. Et donc, le Foucault d'aujourd'hui n'est pas le même, tout simplement parce qu'on dispose d'une quinzaine d'années de cours au Collège de France, ce qui est un apport considérable à l'œuvre et à la mine de réflexion, de théorisation, d'hypothèses que on trouvait déjà dans son œuvre.
Nous allons écouter Michel Foucault expliquer ce qu'est le pouvoir et la gouvernementalité entre les individus. Vous avez peut-être entendu hier soir Bernard Harcourt, qui est à la fois philosophe, chercheur et avocat. Michel Foucault va s'expliquer avec André Berten. C'est une archive de l'Université catholique de Louvain du 7 mai 1981. Michel Foucault, le pouvoir, la gouvernementalité.
Quand je dis le pouvoir, il ne s'agit absolument pas de repérer une instance ou une espèce de puissance qui serait là, occulte ou visible, peu importe, et qui diffuserait son rayonnement nocif à travers le corps social ou qui étendrait d'une façon fatale son réseau. Il ne s'agit pas pour le pouvoir ou pour quelque chose qui serait le pouvoir, de jeter un grand filet de plus en plus serré qui étranglerait et la société et les individus. C'est absolument pas de ça qu'il s'agit. Le pouvoir, c'est des relations. Le pouvoir, ce n'est pas une chose. une relation entre deux individus, et une relation qui est telle que l'un peut conduire la conduite d'un autre, ou déterminer la conduite d'un autre, la déterminer volontairement en fonction d'un certain nombre d'objectifs qui sont les siens. Autrement dit, quand on regarde ce qu'est le pouvoir, c'est l'exercice de quelque chose qu'on peut appeler le gouvernement, au sens très large. On peut gouverner une société, on peut gouverner un groupe, on peut gouverner une communauté, on peut gouverner une famille, on peut gouverner quelqu'un. Et quand je dis gouverner quelqu'un, c'est simplement au sens où l'on peut déterminer sa conduite en fonction de stratégies, en utilisant un certain nombre de tactiques. Donc, si vous voulez, c'est la gouvernementalité, au sens large, entendu donc comme ensemble des relations de pouvoir et techniques qui permettent à ces relations de pouvoir de s'exercer. C'est cela que j'ai essayé d'étudier. Comment est-ce qu'on a gouverné les fous? Comment est-ce que le problème du gouvernement des malades, encore une fois, je me trouve gouvernement entre guillemets, mais en lui donnant un sens à la fois large et riche, comment est-ce qu'on a gouverné les malades? Qu'est-ce qu'on en a fait? Quel statut on leur a donné? Où est-ce qu'on les a placés? Dans quel système de traitement, de surveillance aussi, de bienveillance, de philanthropie, de quel champ économique les soins apportés aux malades? C'est tout cela que je crois qu'il faut essayer de voir. Alors, c'est certain que cette gouvernementalité n'a pas cessé, d'un certain point de vue, de devenir plus stricte au cours des âges. Le pouvoir dans un système politique comme ceux qu'on a connus au Moyen-Âge, ces pouvoirs entendus au sens donc le gouvernement des uns par les autres, étaient finalement assez lâches. Le problème, c'était de prélever, de faire le prélèvement fiscal qui était nécessaire, qui était utile ou qu'on voulait. Bon, ce que les gens faisaient dans leur conduite quotidienne n'était pas très important pour l'exercice du pouvoir politique.
Alors, il y a eu beaucoup de grands intellectuels à l'aube des années 70 qui demeurent encore de grands intellectuels, mais peu, je crois que c'est le seul, Michel Foucault, à être autant discuté, autant traduit dans les universités du monde entier. Comme si, effectivement, il y avait une sorte d'éternisation ou de relecture de certains de ses propos. Que ça soit sur la sexualité, que ça soit sur la justice, que ça soit sur l'économie. Comment expliquer cette espèce de chantier permanent, comme une fouille archéologique, des thèses et des textes de Foucault?
Ce qui est étonnant, c'est de voir quand il a publié Les Mots et les Choses en 66, ça a été un énorme succès public de vente, de discussion. Quand il a publié dans les années 70 Surveiller et punir, et La volonté de savoir, ça a été d'énormes succès de vente. Donc il y avait une influence, un impact de la pensée de Foucault, non seulement dans le monde intellectuel, mais bien en dehors de l'université. Et quand il écrivait Surveiller et punir...
Dans la pratique de la vie quotidienne,
dans la pratique,
voilà,
c'était, quand il écrivait Surveiller et punir, il y a un entretien où il dit « Mon livre est né des luttes et il est destiné à y retourner ». Donc il ne destinait pas ce livre à une simple discussion...
Mais je fais du journalisme brûlant.
C'était pas une discussion universitaire, c'était un livre savant, mais qui s'adressait à tous les publics, les juristes, les militants, associatifs, etc. Ensuite, il y a eu une éclipse, il y a eu ce qu'il faut bien appeler une révolution conservatrice, où l'œuvre de Foucault a été comme bannie, vouée aux gémonies par un certain nombre d'universitaires conservateurs, et où prononcer le nom de Foucault valait presque le bannissement.
Pourquoi,
de
votre avis?
Parce qu'il y a eu un moment dans les années 80 où un certain nombre de gens ont voulu éradiquer l'héritage des années 60 et 70, ce qui a été baptisé d'un terme un peu absurde, la pensée 68, puisque évidemment, entre Derrida, Bourdieu, Foucault et bien d'autres, il y avait tellement de différences que les ranger dans un même, sous un même label, comme ça, n'avait pas beaucoup de sens. Mais l'entreprise était claire, il s'agissait de se débarrasser de tout l'héritage de la pensée critique et de la fécondité de cette pensée critique dans le champ social, dans le champ politique. Comment dire, sont des pensées. Quand vous lisez un livre comme celui de Deleuze, Guattari, l'anti-Oedipe, c'est évidemment des livres qui ont eu un écho formidable, et pas seulement dans le champ philosophique, mais dans le champ social en général. Donc, des gens, un certain nombre de cénacles comme ça, bien organisés, bien financés, ont essayé de balayer tout ça pour le remplacer par une pensée, la pensée de Raymond Aron, puisque d'ailleurs il ne s'en cachait pas, il disait qu'il fallait revenir à Raymond Aron contre toute la pensée critique. Mais évidemment, cette entreprise a vite tourné court, et aujourd'hui il y a un regain d'intérêt depuis un certain nombre d'années pour cet héritage des années 70, et notamment, alors c'est notamment vrai pour Foucault, dont l'œuvre connaît aujourd'hui un rayonnement, un écho assez spectaculaire. C'est toujours très impressionnant le nombre de livres qui se publient, le nombre de colloques, le nombre de discussions, le nombre d'articles dans des revues. C'est très très impressionnant. La raison, c'est que précisément, je crois, ces réflexions ne sont pas simplement des réflexions internes au champ académique. Ce sont des réflexions qui concernent évidemment, si vous voulez penser aujourd'hui, le droit, la justice, la pénalité, la prison, la folie, la sexualité, etc., etc. Qu'est-ce qu'une mobilisation ? Il est bien évident que vous ne pouvez que vous tourner vers Foucault. Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre Foucault comme si c'était des textes qu'on devait suivre à la lettre. Et d'ailleurs, dans mon propre travail, je m'émancipe beaucoup justement de la lettre des textes de Foucault. Ce qui m'inspire, ça serait plutôt le geste qu'il voulait faire, l'esprit qui animait son travail. À un moment, il dit « hériter des Lumières, de la philosophie des Lumières, c'est pas hériter d'une doctrine, c'est hérité d'une attitude, qu'il appelle l'attitude critique. » Et je crois que c'est un peu la leçon qu'on pourrait tirer de tout son travail et de tout le legs qu'il nous a laissé, c'est faire vivre l'attitude critique et donc se référer à ses textes de manière à la fois très très passionnante et passionnée, mais de manière aussi libre et sans s'enfermer dans des discutailleries. Est-ce que Foucault a vraiment dit ça? Est-ce qu'il voulait dire ça? Je n'ai rien contre ça. Il peut y avoir des travail de d'étudiants ou d'enseignants qui veulent établir la lettre des textes. Je trouve ça très bien, mais on peut aussi penser que on peut faire des usages de Foucault, d'ailleurs différents, et avoir des discussions sur la manière dont on peut faire fonctionner sa réflexion dans la critique politique et culturelle d'aujourd'hui.
Nous allons l'écouter. Il va évoquer la place de l'homme dans la culture occidentale en comparaison avec les autres cultures. C'est une archivina du 1er janvier 1973.
Supposons que l'on fasse, parmi les honnêtes gens, parmi les honnêtes hommes qui peuplent le monde occidental, une enquête pour savoir ce qui nous caractérise. Nous, hommes modernes, hommes du XXe siècle, hommes de l'Occident, par rapport aux civilisations et aux cultures qui nous sont étrangères, culture ou la civilisation chinoise, musulmane, hindoue, précolombienne, ce que vous voudrez, eh bien, je crois que tout spontanément, nous serions amenés à répondre ceci, c'est que la civilisation occidentale est la seule, probablement sur toute la surface du globe et dans toute l'histoire du monde, qui ait fait à l'homme une place aussi importante. C'est notre civilisation, et elle seule sans doute, qui a fait en quelque sorte de l'homme le roi de la création. Partout ailleurs, eh bien, les structures sociales, la contrainte des obligations religieuses, la pression des faits économiques, des famines, des développements démographiques, etc., fait que l'homme en lui-même n'a pas l'importance que nous lui reconnaissons. Nous, il est en quelque sorte pris à l'intérieur d'un réseau où il ne constitue qu'une sorte de point, alors que l'on peut dire que chez nous, l'homme occupe la surface la plus importante à l'intérieur de notre culture et de notre savoir.
Nous venons d'entendre la voix de Michel Foucault. Est-ce qu'on peut dire que c'est un philosophe qui a redéfini le statut de l'homme à l'intérieur justement de cette culture occidentale qu'il a eu à cœur de cartographier dans différentes disciplines.
Ce court extrait est assez magnifique parce qu'il s'y trouve condensé, on pourrait dire, toute la passion qu'il mettait dans la déconstruction de l'idée d'homme. Alors on a dit qu'il était anti-humaniste, donc si on est anti-humaniste, ça veut dire qu'on devient totalitaire, ce qui est absurde. Il s'agit ici d'un anti-humanisme au sens de la philosophie humaniste, Camus, etc. C'est une référence à Lévi-Strauss, où quand Lévi-Strauss dit dans La pensée sauvage, le rôle des sciences humaines n'est pas de constituer l'homme, mais de le dissoudre. Foucault cite cette phrase dans Les mots et les choses. Il est bien évident que tout le travail de la pensée critique a été de montrer que l'homme n'était pas comme ça un isolat dans la société, totalement libre de ses pensées et de ses gestes, mais était travaillé par des structures économiques, sociales, politiques. Je suis frappé en entendant ce petit extrait à quel point il est proche de Bourdieu, parce que il y avait un dialogue incessant
que vous restituez à l'intérieur de votre biographie.
Incessant mais plutôt tonique. Oui, mais aussi tacite, implicite. Il ne se citait quasiment jamais, mais on voit bien qu'à chaque fois que l'un prend la parole, il pense à l'autre. D'ailleurs, je pourrais, mais évidemment, il faudrait beaucoup de temps pour. Je pourrais raconter des anecdote sur ça, où je sais que l'un et l'autre passaient leur temps, j'allais dire à ses pieds, le mot serait...
À se surveiller, à
regarder ce que l'autre faisait, publiait, disait. C'est ça le champ intellectuel, on n'est jamais seul, on regarde ce que les autres font, surtout quand on pense que les autres sont des concurrents, des rivaux. Et ici, c'est des propos très bourdieusiens, comment ce qu'on appelle l'homme, quand on dit l'homme ici, parce que je sais que des féministes ont toujours aujourd'hui, Foucault dit l'homme, donc il oublie les femmes. Il dit l'homme au sens l'être humain. Si vous regardez dans le dictionnaire, homme, être humain. Et puis, deuxième sens, c'est homme, par opposition à femme. Mais donc, ici, quand il montre que l'homme n'est pas une création qui domine la société, mais qu'il est produit par des structures sociales et des structures historiques. Et au fond, dans mon livre, Retour à Reims, j'ai essayé de montrer, en m'inspirant en grande partie et de Bourdieu et de Foucault, d'autres auteurs aussi, comment chacun de nous est constitué est un point, comme il le dit, à l'intersection de la géographie, de l'histoire, de la culture, de la politique, de l'économie, où nous sommes des produits à la croisée d'une géographie et d'une histoire, donc géographie sociale, politique et histoire économique, culturelle. Donc nous sommes constitués au sens, donc nous ne sommes pas totalement libres, ce qui veut dire qu'il faut conquérir, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être libre, il faut conquérir la liberté. Contre cette constitution qui ne dépend pas de nous et par laquelle nous sommes produits. Mais je crois que la passion de Foucault, c'était précisément la liberté. Conquérir, ça veut bien qu'on ne peut pas être libre, mais qu'il s'agissait de conquérir le maximum de liberté possible contre toutes ces contraintes sociales, toutes ces pesanteurs historiques par lesquelles nous sommes fabriqués. Et ces grands livres de la fin de sa vie, son projet d'une histoire de la sexualité qui commence en 76 avec La volonté de savoir et qui s'achève, bien que ce soit un projet inachevé puisqu'il est mort et que le dernier volume prévu est resté inédit, qui s'achève donc en 84 avec deux volumes qui sont L'usage des plaisirs et Le souci de soi. On voit bien comment il passe d'une analyse dans La volonté de savoir en 76, d'une analyse des contraintes, comment le pouvoir constitue les individus.
L'émancipation de la personne.
Et l'usage des plaisirs et Le souci de soi, sont des analyses de textes antiques, comment on peut, par un travail de recréation de soi-même, se défaire, non pas totalement, mais petit à petit, dans une certaine mesure, travailler sur soi-même pour non pas s'émanciper, le mot conviendrait pas, mais conquérir une certaine liberté par rapport aux contraintes historiques.
Didier Ribon, je vous propose d'écouter Michel Foucault, qui va s'exprimer à propos de la privation de liberté. C'est un entretien avec André Berten. Toujours les archives de l'Université catholique de Louvain, c'était le 7 mai 1981.
Finalement, mon Dieu, comme nous sommes emprisonnés
dans le système qui est le nôtre, combien sont nombreux les lacets qui nous enserrent et combien il est difficile de dénouer les nœuds que l'histoire a noués autour de nous. Alors qu'en réalité, je veux faire tout le contraire. Car lorsque j'essaie d'étudier quelque chose comme la folie ou la prison, etc., prenons si vous voulez l'exemple de la prison. Quand on discutait, il y a encore quelques années, disons au début des années 70, avec les gens sur la réforme du système pénal, une chose me paraissait très frappante, c'est que, par exemple, la... bien sûr, on posait la question théorique du droit de punir. Bien sûr, d'un autre côté, on posait le problème de savoir comment on peut aménager le régime pénitentiaire. Mais cette espèce d'évidence, si vous voulez, que la privation de liberté est au fond la forme la plus simple, la plus logique, la plus raisonnable, la plus équitable de punir quelqu'un parce qu'il avait commis une infraction, cela n'était pas tellement interrogé. Or, ce que j'ai voulu faire, c'est de montrer combien finalement cette adéquation, pour nous si claire et simple, de la peine avec la privation de liberté, c'est en réalité quelque chose de récent. Quelque chose de récent, c'est une invention technique qui a été, bon, dont les origines bien sûr sont lointaines, mais qui a vraiment été intégrée à l'intérieur du système pénal et qui a fait partie de la rationalité pénale à partir de la fin du XVIIIe siècle. Et j'ai essayé d'interroger les raisons pour lesquelles la prison était ainsi devenue une sorte d'évidence dans notre système pénal. Il s'agit donc de rendre les choses plus fragiles par cette analyse historique, ou plutôt de montrer à la fois pourquoi et comment les choses ont pu se constituer ainsi, mais montrer en même temps qu'elles se sont constituées à travers une histoire précise. Il faut donc montrer et la logique des choses, ou si vous voulez, la logique des stratégies à l'intérieur desquelles les choses se sont produites, et montrer que ce ne sont pourtant que des stratégies, et que du coup, en changeant un certain nombre de choses, en changeant de stratégie, en prenant les choses autrement, du coup, ce qui nous paraissait évident ne l'est pas. Notre rapport à la folie, c'est un rapport qui est historiquement constitué. Et du moment qu'il est historiquement constitué, il peut être politiquement détruit.
On s'aperçoit que Foucault était quelqu'un qui travaillait tout le temps, qui faisait usage de textes à la fois gréco-latin, mais aussi de textes du 19e siècle, du 18e siècle. Le goût de l'archive, on l'a beaucoup célébré.
Oui, oui.
C'était un fou d'archives.
Oui, Arlette Farge a
écrit un magnifique bouquin qui s'appelait Le goût de l'archive.
Le goût de l'archive, oui.
Mais comment étaient constitués les mouvements de pensée à l'intérieur du travail intellectuel de Michel Foucault? Comment s'arrêtait-il à un corpus? Et Dieu sait que on a de très grands intellectuels vivants aujourd'hui, mais est-ce qu'on a des intellectuels aussi savants dans tellement d'infinités de domaines très hétérogènes?
Il est certain que Foucault était un travailleur fou. La somme de lectures, de réflexions, d'écritures, les manuscrits laissés à l'état d'abandon pour passer à autre chose parce qu'il n'en était pas content. C'est quelqu'un qui travaillait vraiment comme un galérien. C'est très impressionnant, c'est spectaculaire. D'autres travaillent, hein, mais pas lui. Il avait cette manière de travailler en allant comme ça, lire des textes. Par exemple, comment il a écrit l'histoire de la folie, son premier grand livre, qui est sa thèse, qui est publiée en 1961. Il a exploré des fonds d'archives quand il était en Suède, à Uppsala. Il a constitué une histoire de la folie pour, mais c'était une mise en question radicale de la psychiatrie, notamment la psychiatrie de son époque. Il revisitait l'histoire de la psychiatrie, en fait, pour dire la folie n'est pas un objet de nature que la science psychiatrique serait venue à découvrir et à constituer comme un objet de science et pour la soigner. Il montre que d'abord la folie a été un objet d'enfermement institutionnel au XVIIe siècle, avant de devenir, et c'est parce que le fou était découpé comme un personnage social, que la psychiatrie a pu venir poser son regard sur ce personnage préalablement découpé par la répression et l'exclusion institutionnelle. Donc c'est un grand livre, on peut discuter les thèses, mais c'était un coup de force dans le champ théorique et politique. Si on prend le dernier livre, par exemple, qui se déroule tel qu'on le connaît en trois volumes, Histoire de la sexualité, donc premier volume, La volonté de savoir. Il dit, je vais analyser trois siècles, disons, du 17e au 20e. C'est le premier volume, il analyse. Et puis pendant 8 ans, plus rien. Et en 84, il publie deux autres volumes qui sont sur l'Antiquité grecque et l'Antiquité romaine. On peut se dire, qu'est-ce que c'est que ce trou pourquoi il abandonne tout le projet qu'il avait d'une analyse disons, principalement 18e, 19e, pour s'intéresser à l'Antiquité romaine. Alors, d'une part, il y a la logique de la recherche. Il s'est aperçu que pour dire que ce que nous appelons la sexualité, où chacun serait défini comme une sorte de secret profond de lui-même qui serait la sexualité. C'est une critique radicale de la psychanalyse. Il faut bien voir ce livre est une entreprise de critique de la psychanalyse, et notamment de la psychanalyse lacanienne, mais aussi du freudo-marxisme qui prospérait dans la gauche critique à l'époque, c'est-à-dire le début des années 70, où Reich, Marcuse étaient des auteurs que tout le monde citait, que tout le monde lisait. Donc il veut mettre en question cette idée idéologie de la libération sexuelle pour montrer qu'au fond, quand on se réfère à la sexualité comme son identité la plus profonde, la plus secrète, on ne fait que répéter la confession chrétienne. Et donc, il voulait analyser ça, l'Emmanuel des confesseurs au XVIIe, la contre-réforme et tout ça. Puis, il s'aperçoit qu'on ne peut pas parler de ça sans remonter au premier temps du christianisme, saint Augustin, etc. Puis il se dit, j'accepte des choses qui sont déjà données, déjà pensées, et il s'aperçoit qu'au fond, il ne peut pas parler des premiers temps du christianisme sans parler, qui aurait été une rupture avec ce qui était venu avant, sans justement parler de ce qui était venu avant pour voir comment ce qui était venu avant dans l'Antiquité, grecque ou romaine, avait nourri la pensée chrétienne ou précisément s'était constitué comme quelque chose avec quoi la pensée chrétienne avait rompu. Donc il est obligé de remonter. Et le dernier volume qui n'est pas publié aurait précisément été le retour à la question qu'il voulait poser au départ, qui est les premiers temps du christianisme et l'instauration de l'idée du sujet de désir. Comment se constitue le sujet de désir dans la pensée chrétienne, avec la confession. Donc son projet d'une mise en question radicale de la psychanalyse se trouve dans le dernier volume de cette histoire, Les aveux de la chair, qui malheureusement n'est pas publié. Je dois dire ici que j'ai toujours regretté que ce volume ne soit pas publié, parce qu'on a dit qu'il n'était pas achevé.
Donc il y a encore des choses à découvrir
bien sûr,
de Michel Foucault.
Parce qu'on dit qu'il n'a pas été publié de son vivant, il n'était pas achevé. Oui, je le sais, il suffit de mettre un avertissement au lecteur pour dire qu'il n'a pas été publié de son vivant, il n'était pas achevé. Les lecteurs ne sont pas... Et s'il l'avait publié, ce n'est pas ça qu'il aurait publié, mais c'est ça. Après tout, les cours au Collège de France sont aussi des choses qu'il n'a pas publiées de son vivant, qu'il n'aurait peut-être pas voulu publier, puisqu'au fond, sont des cours, et ce n'est pas... On voit bien, des gens aujourd'hui opposent tel cours à tel livre, mais il faut dire, ce qu'il a publié, c'est le livre, c'est pas le cours. Et donc, moi, je trouve très bien d'avoir tous ces matériaux, c'est formidable, je les lis avec grand bonheur. Mais c'est ce qu'il n'a pas publié, ce sont des pistes. Et ce qu'il a publié, quand on lit le cours Théorie et institution pénale de 72, c'est très 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 différent de Surveiller et punir 3 ans après. C'est très intéressant, on voit comment est né le projet de Surveiller et punir, comment ce livre s'est développé, mais c'est très 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 différent. Et ce qu'il a publié, c'est Surveiller et punir, et c'est pas le cours Théorie et institution pénale. Donc c'est une sorte d'alambic, les cours dans lesquels passaient les pensées, les hypothèses, les pistes de recherche, qui est le livre, c'est le suc, l'élixir, si on peut dire, qui est sorti de cet alambic. Donc Foucault est quelqu'un qui travaillait beaucoup, mais qui à chaque fois se posait la question, est-ce que je suis en train de faire n'est pas quelque chose qui est déjà dit, déjà prescrit, déjà pensé. Quand il publie La volonté de savoir en 76, au dos du livre, il y a la liste des 5 volumes qu'il va publier. Il y a l'étude de la notion de femme hystérique dans la psychiatrie et la psychanalyse, il y a le transsexualisme, et puis il ne le fait pas. Il abandonne ce projet qui était déjà, qu'il était en chantier, mais c'était un projet, un programme de recherche. Quelqu'un m'a demandé tout récemment, à ton avis, pourquoi Foucault a abandonné ce projet? Alors, il y a deux raisons, je pense. La première, c'est que c'était un livre très lié à l'effervescence politique des années 70. Le temps de travailler, etc. C'est un livre qui est lié au début des années 70. Il sort en 76, mais c'est une discussion très critique avec l'état du champ intellectuel, philosophique, théorique, notamment la place de la psychanalyse dans la gauche intellectuelle critique. Donc, le reflux du gauchisme, si on peut dire, en 76, fait que d'un seul coup, les questions telles qu'il les posait tournent un peu à vide. Deleuze dit dans un texte sur Foucault, il voulait sortir de son affrontement, son tête-à-tête avec la question du pouvoir. Et d'une certaine manière, c'est pas tout à fait vrai, mais on comprend ce que veut dire Deleuze, c'est que la manière dont il posait les questions, dont il pensait le pouvoir, doit être repensée, revisitée, puisque le champ, tout le champ politique, toute l'atmosphère, toute la culture politique d'un seul coup bascule. Donc on peut expliquer pourquoi il passe du 19e siècle, d'un livre très polémique contre le freudo-marxisme, à la culture antique. Mais je dirais qu'il y a une autre raison qui peut être aussi importante. C'est qu'il a dû se dire, réfléchir sur la notion de femme hystérique dans la psychiatrie et la psychanalyse, sur la notion, sur le transsexualisme. Ce sont des livres qui sont presque, des livres historiques, qui sont presque écrits d'avance. Et il a dû se dire, mais ça m'ennuie de dérouler ce programme annoncé pendant des années, alors que je sais déjà ce que je vais dire. Nous ne le savons pas. J'aimerais bien lire les livres qu'il ne nous a pas donnés. Mais j'imagine qu'il a eu l'impression que ça serait écrire des choses qu'il avait déjà pensées. Et des choses, et au fond, comme il le dit, et donc il change totalement d'objet. Il remonte à l'antiquité grecque et romaine pour penser les problèmes de la sexualité et du rapport à soi, le fameux souci de soi. Et à ce moment-là, on voit bien que il change complètement. Ce qu'il voulait faire, il l'a laissé, pas totalement laissé de côté. Il publie un très très beau, il publie les mémoires d'Herculine Barbin. Donc il laisse pas totalement de côté ses préoccupations, mais il change totalement de projet. Je pense que ça l'aurait peut-être ennuyé de continuer à travailler sur la psychiatrie comme il le dit dans la préface à l'usage des plaisirs, donc il sort en 84, 8 ans après La volonté de savoir, il dit, des gens ont dit que je n'étais plus capable d'écrire parce que j'étais en train de travailler pour repenser mon projet. Et lui, justement, il dit, pour moi, écrire, travailler, penser, c'est se déprendre de soi-même. Et c'est justement se déprendre de lui-même, c'est-à-dire aussi de son propre travail qui, il avait fait une introduction, il ne voulait pas continuer à dérouler des choses dont il avait peut-être l'impression qu'il les avait déjà dites, même s'il ne les avait pas dites, mais je crois qu'il lui suffisait de les avoir déjà pensées pour que ça l'ennuie d'une certaine manière. Enfin, là, c'est une hypothèse un peu aventureuse que je risque, mais à cette époque-là, j'ai connu Foucault en 1980, et jusqu'à sa mort en 84, nous avons été liés d'une complicité amicale assez étroite, et nous avons eu beaucoup de conversations justement sur les livres qu'il était en train d'écrire et qui ont été publiés la veille de sa mort. Et dans ce qu'il disait, j'ai une perception d'une sorte de lassitude justement de ce qu'il avait fait avant et la raison pour laquelle il voulait faire autre chose.
Foucault a-t-il changé votre vie ?
Ah oui, la lecture de Foucault a changé ma vie, bien sûr. Lire l'histoire de la folie, qui, comme je l'ai dans mon livre de 1999, Réflexion sur la question gay, il y a toute la dernière partie, il y a 150 pages, qui est une autre biographie de Foucault, si on peut dire, qui s'appelle Les hétérotopies de Michel Foucault, et j'essaie de montrer comment Foucault a toute sa vie, c'est pas un hasard si à la fin il se lance dans le projet d'une histoire de la sexualité pour interroger les catégories de la sexualité, à toute sa vie, sa recherche, son travail a été marqué et hanté par cette question de la sexualité, et notamment, bien sûr, de l'homosexualité. Et je risque l'hypothèse sur son premier grand livre, Histoire de la folie. Je dis, au fond, on pourrait lire ce livre comme une histoire de l'homosexualité qui n'a pas osé dire son nom à l'époque, évidemment, quand il l'écrivait entre 55 et 60, ça n'était pas facile. Mais si vous relisez l'histoire de la folie aujourd'hui, paru en 61, vous voyez que le chapitre central est consacré à l'enfermement dans l'hôpital général en commun des homosexuels et des insensés. Et se sont créés, dit-il, deux personnages, le fou et l'homosexuel, qui vont, par la répression, par l'exclusion, qui sont les personnages sur lesquels la psychiatrie va venir poser son regard pathologisant, diagnostic psychiatrique, etc., et de volonté de guérison. Donc c'est un grand livre sur l'exclusion, sur la répression des fous et des homosexuels. Quand j'ai écrit ça en 99 dans Réflexion sur la question gay, vous imaginez le tollé que ça a chez les disciples orthodoxes qui, pour qui Foucault est comme une sorte de Bible sur laquelle on n'a pas le droit de blasphémer. C'est comme si j'avais blasphémé. Mais, comment dire, j'avais suffisamment parlé avec Foucault de toutes ces questions pour savoir qu'il y avait là un foyer de problèmes. Et puis, plusieurs années après mon livre, en 99, donc tout ce chapitre, toute cette partie de mon livre sur Foucault et la sexualité, j'ai lu une interview de lui qui n'avait jamais été publiée, qui a été rendue publique, où il dit « Il est bien évident que dans mon livre de 61, Histoire de la folie, il s'agissait d'affronter mes propres problèmes avec ma propre sexualité. » Donc, ce que j'avais dit qui avait fait tellement scandale, ce qui me paraissait tellement évident quand on lit Foucault d'un bout à l'autre, cette insurrection contre les normes, contre la normalité, on sent bien ce qui anime, ce qui porte tout son projet intellectuel, tout son projet théorique, tout son projet politique, cette insurrection contre justement l'assujettissement des individus par des normes, par l'exclusion, la répression, etc. On me l'avait reproché. Et dans cette interview, ce que j'avais dit, qu'on me reprochait, lui-même le disait, j'avais trouvé ça évident, mais puisque c'est lui qui le disait, ça me paraissait d'autant plus évident et surtout désormais incontestable. Si je peux ajouter un dernier mot sur l'influence de Foucault sur moi, pas seulement personnellement, mais sur mon écriture, sur ma réflexion, c'est comment j'ai toujours voulu lier, on peut dire, l'expérience vécue à la réflexion théorique. Une réflexion théorique qui s'ancre dans l'expérience vécue, ce que Foucault appelait l'indocilité réfléchie, c'est-à-dire le refus, l'indocilité devant la violence des normes, et à partir de laquelle on construit un projet intellectuel pour dépasser justement l'expérience personnelle et en faire en donner une approche théorique plus générale, en donner une approche politique qui ne soit plus simplement la souffrance personnelle. Et je pense que un des enseignements, un des héritages de Foucault, notamment sur moi, mais je pense sur beaucoup de gens, a été d'éviter de vouloir dissocier les souffrances la violence que l'on ressent du projet théorique. Et ça, je crois que c'est une chose très très importante. Et si j'avais une phrase à dire sur ce que je dois à Foucault, ça serait ça. Partir d'une souffrance personnelle, ce qu'il appelait l'inservitude volontaire, cette inservitude, c'est très important, l'indocilité à partir desquelles on bâtit une réflexion, un édifice théorique et un engagement politique.
Pour terminer cette quatrième émission consacrée à Michel Foucault, je vous propose, Didier Ribon, de nous quitter en écoutant la voix de Michel Foucault, qui va évoquer les lieux d'utopie, comme le jardin ou encore le théâtre. C'est une archive INA du 7 décembre 1966.
La société adulte a organisé elle-même, et bien avant les enfants, ses propres contre-espaces, ses utopies situées, ses lieux réels hors de tous les lieux. Par exemple, il y a les jardins, les cimetières, il y a les asiles, il y a les maisons closes, il y a les prisons, il y a les villages du club méditerranéen et bien d'autres. Eh bien, je rêve d'une science, et je dis bien une science, qui aurait pour objet ces espaces différents, ces autres lieux, ces contestations mythiques et réelles de l'espace où nous vivons. Cette science étudierait non pas les utopies, puisqu'il faut réserver ce nom à ce qui n'a vraiment aucun lieu, mais elle étudierait les hétérotopies, les espaces absolument autres. Et forcément, la science en question s'appelle déjà l'hétérotopologie. Eh bien, de cette science qui est en train actuellement de naître, il faut donner les tout premiers rudiments. En général, l'hétérotopie a pour règle de juxtaposer en un lieu réel plusieurs espaces qui, normalement, seraient, devraient être incompatibles. Le théâtre, qui est une hétérotopie, fait succéder sur le rectangle de la scène toute une série de lieux étrangers. Le cinéma, eh bien, c'est une grande salle rectangulaire au fond de laquelle il y a sur un écran qui est un espace à deux dimensions, un espace projeté qui est un espace à nouveau à trois dimensions. Vous voyez l'enchevêtrement des espaces qui se fait et qui se noue dans quelque chose comme une salle de cinéma. Mais peut-être le plus ancien exemple d'hétérotopie serait le jardin. Le jardin, création millénaire, qui avait certainement en Orient une signification magique. Le traditionnel jardin persan est un rectangle qui est divisé en quatre parties. Ces quatre parties représentent les quatre parties du monde, les quatre éléments dont le monde est composé. Et au milieu, au point de jonction de ces quatre rectangles, il y avait un espace sacré, une fontaine, un temple. Et autour de ce centre, toute la végétation du monde, toute la végétation exemplaire et parfaite du monde devait se trouver réunie. Or, si on songe que les tapis orientaux étaient à l'origine des reproductions de jardins, au sens strict du terme, des jardins d'hiver, on comprend la valeur légendaire des tapis volants, des tapis qui parcouraient le monde. Le jardin, c'est un tapis où le monde tout entier vient accomplir sa perfection symbolique, et le tapis, c'est un jardin mobile à travers l'espace. Était-il d'ailleurs parc ou tapis, ce jardin que décrit le conteur des mille et une nuits ? On voit que toutes les beautés du monde viennent se recueillir en ce miroir. Le jardin, depuis le fond de l'Antiquité, est un lieu d'utopie. On a peut-être l'impression que les romans se situent facilement dans des jardins, c'est qu'en fait, les romans sont sans doute nés de l'institution même des jardins. L'activité romanesque est une activité jardinière.
Merci Didier Ribon. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'une monumentale biographie augmentée qui est disponible en livre de poche et que votre dernier ouvrage s'intitule « Principes d'une pensée critique chez Fayard ». Demain, cinquième et dernière émission de notre série Michel Foucault avec Patrick Boucheron, Frédéric Gros et Daniel Defer. Merci à l'équipe de Hors-Champ, Guillaume Leduc, Corinne Amard, Élodie Royer, Samuel Bernard et Didier Lagarde. Vous écoutez France Culture. Bonne fin de soirée.